La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Est-ce en réaction à la progressive érosion du modèle de l'Homo economicus qui, pour comprendre le social, faisait le pari fou de nous prendre toutes et tous pour des agents parfaitement rationnels, exclusivement mus par la recherche de nos intérêts par définition bien compris? Toujours est-il que les émotions sont, depuis des années déjà, de retour en force dans les sciences humaines et sociales. De retour en force et en faveur, car il semble qu'il ne s'agisse plus seulement, à entendre certains chercheurs, de prendre en considération le rôle central joué par les émotions pour mieux comprendre l'économie, le social ou le politique, mais aussi de redorer le blason de cette catégorie d'analyse trop longtemps laissée pour compte, voire d'en valoriser clairement l'expression. Ainsi peut-on peut-être lire comme un symptôme de ce glissement progressif le choix du mot « passion » dans le titre d'un dictionnaire consacré aux émotions, pour reprendre le mot consacré depuis les origines, par la psychologie. Dictionnaire des passions sociales, c'est donc le titre de ce volumineux volume qui paraît dans la célèbre collection des presses universitaires de France, un dictionnaire dirigé par la philosophe Gloria Origi, qui est aujourd'hui l'invitée de la suite dans les idées. Et d'une passion absente, notamment, il sera question dans la deuxième partie de l'émission, passion pour la vitesse aussi de notre époque, puisque nous rejoindra la romancière et l'écrivaine Maria Pourchet, auteur récemment des Impatients, publié aux éditions Gallimard. Bonjour Gloria Origi.
Bonjour.
Vous avez coordonné ce gros volume Passion sociale, je le disais, qui paraît dans cette collection des presses universitaires de France, qui font paraître chaque année quelques dictionnaires. L'un récent était consacré aux inégalités sous la direction de Patrick Savidan. Et vous êtes attelé depuis, j'imagine, un bon moment, parce que pour faire un travail éditorial comme celui-là, il faut un peu de temps, à la question des passions. Où trouve son origine ce volume, Gloria Origi?
Disons qu'il trouve son origine dans l'actualité. Vraiment, quand j'ai commencé à raisonner sur ces projets de dictionnaire, c'était l'élection de Trump et quelques mois après, le Brexit. Et les pages, les unes des journaux étaient envahies par la mention de passion, comme le mépris, la nostalgie, bring America back again,
la colère,
le ressentiment. Et donc, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces expressions? Enfin, on les utilise tous les jours pour expliquer l'action sociale et pour expliquer les comportements des gens, mais après, on se retrouve encore, même si vous parlez d'érosion de l'homme economicus, on se trouve encore avec des théories formalisées en économie, par exemple, où les noyaux durs de ces théories, c'est encore l'homo economicus. Enfin, on n'a pas une mathématique des émotions, on n'a pas une mathématique du ressentiment, mais on a des mathématiques pour l'homo economicus, enfin pour un agent rationnel qui est au centre de l'action sociale. Et donc, je veux dire, dans la lignée de beaucoup de travaux qui sont consacrés aux émotions, enfin, ces dictionnaires est nouveau peut-être par son interdisciplinarité, mais disons, le thème des passions a été exploré non seulement dans toute l'histoire de la philosophie, mais aussi on pourrait dire que même dans des sciences comme les sciences sociales et les sciences cognitives, il y a un tournant émotionnel, ou pas émotionnel, mais enfin d'intérêt pour les émotions. Donc, je me suis accrochée à l'actualité pour comprendre ces foules sentimentales qui envahissent l'espace social et qui motivent leur action. Non seulement sont motivées par les passions, mais justifient leur action en faisant référence aux passions. Donc, derrière chacun de ces termes, il y a des théories, il y a une histoire de la pensée, il y a des concepts. Donc, mon dictionnaire a l'ambition, disons, d'éclairer avec une analyse conceptuelle, enfin, et en amenant aussi les savoirs un peu partout dans les sciences sociales contemporaines, d'amener un regard critique et analytique, enfin, sur qu'est-ce qu'on dit quand on parle de ressentiment, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de colère d'un mouvement social. Et donc voilà, ça va un peu dans la explication des motivations de ce 21e siècle qui sera sûrement un siècle chaud, pas seulement pour des raisons climatiques, mais aussi pour des raisons sociales. Enfin.
La question, évidemment, l'enjeu, c'est de savoir si c'est simplement le fait qu'on prête davantage attention aux émotions, ce qui expliquerait qu'on retrouve un lexique qui renvoie à ses passions, à ses émotions, dans les titres des journaux, par exemple, pour comprendre l'actualité, ou si, désormais, du fait d'un certain nombre de changements des configurations des sociétés et peut-être aussi et surtout de l'espace public, de savoir si les émotions sont désormais appelées à jouer un rôle différent d'autrefois. Non pas que ces émotions soient nouvelles, elles sont très anciennes, aussi anciennes que l'humanité, mais elles sont peut-être appelées à jouer un rôle différent.
Les deux, je dirais les deux. Enfin, d'un côté, il est vrai qu'il y a une évolution des disciplines des sciences sociales qui prêtent attention aux émotions. Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça va avec l'érosion d'un paradigme. Lorsque un paradigme commence à faire des trous partout, enfin, à ne plus être explicatif.
Le paradigme du calcul rationnel,
du choix rationnel, le paradigme de l'homme economicus que vous avez évoqué tout à l'heure, lorsque un paradigme commence à montrer son insuffisance, enfin, on cherche ailleurs. Enfin, il y a un changement des paradigmes. Donc, bien sûr, dans les sciences sociales, on voit ça. Et de l'autre côté, je pense que, justement, lorsque j'ai dit que le 21e siècle sera chaud, c'est aussi, disons, la combinaison entre démocratie et inégalité sociale qui peuvent faire ressurgir des passions. Enfin, les deux sont vrais. Enfin.
On reviendra sur le deuxième. Si on reste un instant sur la première remarque, celle qui concerne au fond l'état des disciplines, leur rapport à cette notion d'émotion ou de passion, je ne l'ai pas encore précisé. Vous êtes philosophe, vous êtes directrice de recherche au CNRS, à l'Institut Jean Nicot, et vous connaissez bien au fond ce qui s'est produit depuis quelques années dans ce domaine du savoir, c'est-à-dire l'irruption des sciences cognitives, les progrès évidemment qui viennent des sciences de la médecine de ce point de vue-là, et qui ont impacté, qui ont affecté un certain nombre de recherches philosophiques. Est-ce qu'on peut considérer aussi que la place donnée désormais aux émotions dans la recherche et découle directement de ce moment cognitiviste de la philosophie, en tous les cas pour certains philosophes?
Mais oui, non seulement du mouvement cognitiviste. Je prends un exemple qui me semble assez central dans les sciences sociales, comme l'économie comportementale, par exemple. L'économie comportementale a introduit d'autres variables pour l'explication du comportement humain qui vont bien au-delà de la rationalité ou de la maximisation
des intérêts
personnels. Donc, en fait, je pense que l'évolution est dans plusieurs disciplines, non seulement, sûrement les sciences cognitives ont permis d'approfondir enfin les rôles enfin des émotions dans l'explication du comportement humain, mais pas seulement, enfin aussi dans beaucoup de sciences sociales, enfin on voit cette évolution.
Alors beaucoup de sciences sociales, nombreuses sciences sociales, on les retrouve dans la liste, à travers la liste des collaborateurs du dictionnaire, puisqu'on trouve des gens qui appartiennent à la discipline philosophique, mais aussi des sociologues, des politistes, des économistes, des anthropologues. Enfin, j'ai pas fait la liste des disciplines, mais c'est extraordinairement varié. Il y a beaucoup d'auteurs et il y a aussi une dimension internationale, puisqu'on trouve des textes d'Anthony Appia, de Jon Elster, d'Eva Illouz, pour ne prendre que quelques exemples d'étrangers, de chercheurs italien aussi, et puis dans les disciplines, des gens habitués de cette émission, Vincent Descombes, Pascal Engel, Pierre-Michel Minguer, Nathalie Hennig, enfin beaucoup de gens variés, et puis des jeunes chercheurs également.
Et oui, c'était un choix résolument interdisciplinaire, un peu c'est ma nature, enfin moi je suis une transdisciplinaire par ma formation, par mon éducation, donc j'ai travaillé très souvent d'une façon transversale. Je l'avais déjà fait dans mon livre sur la réputation. Enfin, j'avais exploré, disons, le concept dans plusieurs disciplines. Et voilà, je pense que lorsqu'on aborde une question nouvelle et que cette question fait partie, disons, d'une philosophie du présent, enfin, qui sert à expliquer, disons, qu'est-ce qui se passe dans notre présent, on a besoin de la contribution des disciplines différentes. Or, il se peut aussi que c'est le fait que je suis une émigrée, que je suis une étrangère, donc j'ai moins de sensibilité pour les écoles de pensée que lorsque vous êtes ancrée dans un dans une tradition précise. Donc en fait, je me permets une certaine liberté intellectuelle.
Aucune frontière, ni disciplinaire, ni géographique.
Voilà, justement. Enfin, je veux dire, c'est l'avantage des transnationaux qui très souvent sont aussi transdisciplinaires parce qu'ils ont une perception moins aiguë de l'appartenance disciplinaire. Et je trouve quand même qu'il y a un équilibre dans cet ouvrage entre analyse conceptuelle, qui est l'outil typiquement des philosophes, et travail plus empirique des sciences sociales. Enfin, donc je pense que les deux s'accompagnent. Moi, j'ai une méthode en philosophie dans mon travail, enfin, de fournir des analyses conceptuelles qui peuvent illustrer des mécanismes sociaux. Donc en fait, vous avez nommé Jon Elster, par exemple, les grands maîtres des mécanismes sociaux, de l'explication de l'action sociale par des mécanismes. Et je le considère aussi un de mes maîtres. Enfin, et donc, sûrement, mettre ensemble analyse conceptuelle et mécanismes sociaux, c'était un peu ma méthode. Enfin, de l'autre côté, je trouve, étant donné que les passions sont un sujet philosophie classique, enfin, on le retrouve depuis la rhétorique d'Aristote, le livre 3 de la rhétorique d'Aristote est consacré aux passions, donc d'impliquer aussi des chercheurs, des vrais philosophes, pas comme moi qui se penche vers les sciences sociales, mais des philosophes qui ont une érudition dans l'histoire de la philosophie, c'était une façon de, si vous voulez, de donner aussi un peu de matière classique, enfin, et à ce dictionnaire. Et je trouve aussi que c'est une façon de réévaluer la philosophie. La philosophie n'est pas seulement une érudition comme ça frivole, mais aller lire Aristote, Spinoza ou Descartes sur les passions m'ont permis de comprendre mieux qu'est-ce qu'elles sont. Donc, en fait, la philosophie participe à des enjeux contemporains, des compréhensions de la réalité contemporaine.
Alors justement, puisque vous citez Spinoza, dans votre introduction, vous faites référence à l'apport considérable de Spinoza et celui de Hobbes aussi sur cette question de passion. Et puis ça nous renvoie à la question du choix du mot, au fond, passion.
Oui, c'est vrai, c'est un choix qui peut être discutable. Enfin, d'ailleurs, Spinoza parlait d'affect, pas de passion. Affect qui sont quand même parus dans les traitements contemporains des émotions. Prenons le travail, par exemple, de Frédéric Lourdon sur les affects.
Oui, avant lui, Pierre Bourdieu.
Voilà, donc en fait, c'est un terme, Spinoza. La passion, enfin, ça a un côté passif, tandis que les affects peuvent être actifs. Et donc, voilà le sens du mot affect. Moi, j'ai repris le terme passion, parce que émotion, c'est un terme qui je trouve un peu réducteur. C'est comme si on pouvait étudier l'action sociale en allant regarder, en faisant des IRM des êtres humains et comprendre qu'est-ce qui arrive dans leur cerveau lorsqu'ils décident sur le moment. Tandis que les passions, là je reprends une distinction d'ailleurs kantienne, enfin, les passions s'ancrent dans le tissu social, elles se cristallisent, elles s'intellectualisent. Et donc, d'une certaine façon, c'est un terme qui est plus apte. D'abord, c'est un terme plus chaud. Et moi, je pense vraiment que cet aspect de chaleur de l'action sociale est très important. Et elle s'ancre d'une façon plus forte dans les tissus sociaux. Enfin, les émotions sont très souvent étudiées au niveau individuel. Donc, ce passage de l'individuel au social me semble central pour comprendre l'action sociale. Enfin, ce qui était un peu le but de ce
Il y a deux différences. Donc, le passage vers une dimension davantage sociale et puis l'idée aussi d'une durée, l'idée de quelque chose qui s'installe.
Exactement, quelque chose qui s'installe et qui explique aussi le fait qu'elles sont imprévisible parce qu'on manque des théories. Ça veut dire que une passion peut se sédimenter dans un tissu social et ressurgir à un certain moment parce qu'elle était là, elle était dans les braises de la société, mais en fait, on ne la voyait pas parce qu'elle n'était pas provoquée par certaines réalités sociales, comme par exemple l'inégalité, enfin, qui peut clairement faire ressurgir des passions fortes.
Alors, empiriquement, concrètement, comment vous avez procédé? Est-ce que vous avez d'abord dressé une liste des passions et pour cela, vous vous êtes appuyé sur la littérature classique, je dirais, de l'étude des passions? Ou est-ce que vous avez d'abord dressé une liste des auteurs que vous aviez envie d'avoir autour de vous? Comment un peu des deux?
Non, en fait, j'ai commencé par une liste de passions, justement, en retenant des termes que j'ai trouvés dans l'actualité. Et donc, le mépris, les ressentiments, la colère, la haine, en fait, c'est un peu des passions tristes. Enfin, j'ai commencé par des passions tristes.
L'indignation aussi, parce que vous parlez de ce phénomène éditorial du livre de Stéphane Hessel, qui a été un phénomène mondial.
Les mouvements des indignés.
Et puis les indignés après coup, oui.
Voilà, donc l'indignation, qui est une passion sociale par excellence, enfin, parce que c'est une passion généreuse qui dépasse d'une façon vraiment substantielle notre intérêt, parce qu'on peut être indigné par une humiliation, par exemple, qui est infligé à quelqu'un d'autre et pas
à
nous-mêmes.
C'est une passion altruiste.
Donc c'est une passion altruiste. Mais encore, l'empathie, pour ne pas se focaliser seulement sur les passions négatives, l'empathie, l'altruisme, l'hospitalité, les débats, si on prend les travaux de Judith Butler, de Jean Balibar, enfin sur l'hospitalité, et Étienne Balibar, excusez-moi.
Ou Jacques Derrida.
Ou Jacques Derrida, voilà. Donc vous voyez que je nomme des philosophes qui ne sont pas vraiment dans ma tradition pour continuer avec ce trait transdisciplinaire qui m'appartient, enfin, que je revendique, enfin, comme façon de travailler. Et donc voilà, enfin, donc j'ai commencé par une liste et puis j'ai interpellé, grâce aussi à un comité éditorial qui m'a aidé, les personnes qui me semblaient être des experts de chaque passion. Mais disons, il y avait certains choix, comme par exemple éviter les passions qui ont un objet précis. Par exemple, la passion pour le sport ou la passion pour les jeux. Tout ça, on a discuté, mais en fait, c'est des passions qui motivent. Enfin, je veux dire, c'est pas... mais on a préféré rester un peu dans les catalogues classiques du traité des passions et puis ajouter des passions un peu inventées ou forcer des concepts qui ne se réfèrent pas immédiatement à une passion, par exemple la confiance que j'ai écrite, l'entrée confiance, mais enfin la confiance
sur laquelle vous aviez travaillé déjà,
sur laquelle j'avais travaillé dans un ouvrage qui a paru il y a 10 ans, et ou la réputation ou le partage, par exemple, des passions qui me semblaient expliquer les réactions sociales de la contemporanéité, enfin, donc même la misogynie, le virilisme, des passions qui ne sont pas immédiatement, enfin qu'on retrouve pas dans les traités classiques, enfin, mais qui explique l'ère du temps. Qui, donc, je veux dire, si on veut refaire un traité des passions aujourd'hui, on ne va pas reprendre seulement les entrées de la rhétorique d'Aristote. Enfin, il faut aussi le mettre à jour avec ce qui motive les gens aujourd'hui.
Forcément des nouvelles passions, mais par exemple des entrées qui ne sont pas des passions, mais qui sont des mots-clés qui permettent de comprendre le rôle des passions dans la société. Célébrité, par exemple.
Oui.
Célébrité, c'est pas une passion, mais célébrité méritait une entrée.
Oui, absolument. Moi, je pense que d'ailleurs, il y a des mécanismes de la célébrité qui expliquent des réactions passionnelles. Et en fait, j'ai demandé aux auteurs, dans le cas des célébrités, c'est Nathalie Hennick qui a traité de cette question dans un livre sur la visibilité qui était un ouvrage qui m'a beaucoup inspiré.
Dont elle était venue parler dans cette émission il y a quelques années déjà.
Et donc, on pourrait traiter la célébrité sous plusieurs angles. Je lui ai demandé de la traiter sous l'angle des passions, pourquoi ça peut motiver l'action sociale et pourquoi elle peut aussi créer des risques. Ça veut dire, on a une hyper-exposition aujourd'hui, par exemple des personnages politiques, enfin des acteurs politiques, et la célébrité est un mécanisme qui est non linéaire, ça veut dire qu'il vous amène très en haut. Une fois que vous êtes célèbre, vous êtes de plus en plus célèbre. Et donc ça, ça peut créer de la distance sociale. Et paraître à la télé trop souvent, des rites. Donc, par exemple, je donnerais un conseil aux politiques, faites attention à la célébrité, enfin, parce que c'est la célébrité qui crée de la distance et donc du ressentiment. Trop de célébrité, dans certains domaines, c'est très bien, comme pour un chanteur ou pour de la musique, mais par exemple, pour un politique, il faut faire attention. On a entendu beaucoup avec les mouvements des Gilets jaunes cette idée de la distance.
Enfin, j'entends votre conseil, mais on peut plutôt observer à certains égards l'inverse, c'est-à-dire que exactement. C'est aujourd'hui la célébrité, dans de multiples cas, qui donne accès à des statuts politiques
absolument.
De manière si immédiate, prend... beaucoup plus rapide qu'une carrière à l'intérieur d'un parti politique. Où il y a le mouvement Cinque Stelle avec des comiques, mais on en trouve dans plein d'autres pays.
Les élections récentes dans d'autres pays. Enfin,
vous parliez de Trump tout à l'heure. S'il n'avait pas été le présentateur d'une émission de télé-réalité, il n'aurait pas eu la notoriété qui lui a permis...
Totalement. Donc, il y a un aller-retour qui comporte un accès, comme vous dites, à la politique, mais qui comporte aussi des risques. Enfin, des risques de retour négatif de la célébrité.
J'en reste à la lettre C. Non pas que je sois resté à la lettre C. D'abord, j'ai pas tout lu. C'est un livre énorme.
Mais c'est pas un livre qu'il faut lire
de A à Z.
Le Z, il n'y a pas, donc des A à X, mais c'est des entrées qui ont une certaine autonomie, une certaine indépendance.
Oui, il faut picorer comme dans tout dictionnaire.
Exactement.
Mais si je reste à la lettre C, une autre entrée qui n'est pas une passion, par exemple, qui est Care. Care, du nom de ce mouvement d'études, de philosophie, de sciences humaines, plus largement, qui s'intéresse aux soins, donc, et mouvement qui prend en compte de manière fondamentale et centrale les passions.
Ah, totalement. Moi, je pense que c'est pas un terme qui a été exploré du côté des patients, mais ça révèle une forte composante affective dans notre comportement social. Enfin, si on voit les travailleurs du care, enfin, qui manifestent, qui demandent, enfin, une prise en compte de la dimension aussi affective, disons, de données plus de considération à la dimension affective de leur travail. Donc, bien sûr, enfin, je pense que c'est une passion qui motive et c'est une passion qui est présente dans la contemporanéité.
On trouve aussi donc des entrées plus transversales comme épistémologie des émotions ou morale et passion, par exemple. Donc, ce dictionnaire est aussi réflexif par rapport à des passions, à la manière dont des passions peuvent s'articuler les unes aux autres et à la manière dont elles ont un lien avec la connaissance et...
Oui, disons, par exemple, l'épistémologie des émotions, vous faisiez référence tout à l'heure aux sciences cognitives. Je pense que ce qui a été important comme tournant dans les sciences cognitives et dans l'épistémologie, dans la prise en compte des émotions, c'est de penser que les émotions ne s'opposent pas aux raisons, mais elles-mêmes peuvent nous fournir de la connaissance. Enfin, par exemple, de la connaissance de notre positionnement social par rapport aux autres. Bien sûr, il y a des conditions, les passions peuvent être plus ou moins appropriées. Enfin, on peut se sentir humilié sans l'être. Enfin, donc, il y a des conditions de satisfaction, comme on dit en philosophie, comme dans les cas des croyances. Mais les passions sont, c'est ça qui est important, disons, dans la recherche contemporaine. Donc, vous avez fait bien le rappeler, c'est que les passions sont des sources de connaissances. Et donc, ça, c'était un gros changement de paradigme. Enfin,
Alors, on trouve, on pourrait prendre cette liste. Vous-même, vous vous êtes attelé, vous disiez, à la question de la confiance.
Oui. Je pense que la confiance, là aussi, enfin, ce n'est pas d'abord une passion, mais on peut l'aborder sous l'angle des passions. La confiance n'est pas qu'un contrat. On ne fait pas confiance aux autres seulement parce qu'on a signé un contrat avec les autres. La confiance, c'est une façon de se laisser aller. Et ça crée des attentes normatives. Si je vous fais confiance, je m'attends que vous allez me respecter dans mon acte de confiance parce que je me rends vulnérable à votre action. Or, je pense que dans la société, enfin, on peut prouver du ressentiment lorsque la confiance est trop asymétrique. Lorsque je joue ma peau, pour citer le titre d'un livre de Nassim Taleb qui s'appelle « Jouer sa peau », moi, je joue ma peau en vous faisant confiance. et vous ne jouez pas votre peau. Donc ça crée une asymétrie des risques qui crée du ressentiment. Vous
et voyez, et ce ressentiment peut créer non plus de la confiance, mais de la défiance.
De la défiance. Donc prenez la crise de 2008. La crise de 2008 qui a vu après l'insurgence des mouvements comme les indignés et,
à Wall Street,
etc. Et donc là, c'est clairement une asymétrie des risques à laquelle on assiste. Enfin, on joue notre peau en faisant confiance aux banques, et parce que c'est quand même, enfin, c'est notre argent, c'est notre survie. Et les banques ont été aidées pour sortir de la crise. Et on s'est rendu compte que quelques années après, les primes des dirigeants des banques avaient retourné au même niveau qu'avant la crise, tandis que les personnes étaient dans un état désastreux en termes économiques. Donc là, justement, l'asymétrie des risques, qui est une asymétrie qui a à faire avec la confiance, je vous ai donné toute ma confiance et vous m'avez trahi. Trahison, d'ailleurs, c'est une autre entrée du crée, bien sûr, de l'indignation et du ressentiment. Et donc, vous voyez que les passions se lient là, enfin, l'une à l'autre. Or, je n'ai pas fait un traité des passions, une géométrie des passions. Là, ce que vous allez trouver dans ce livre, c'est un catalogue, enfin un dictionnaire, comme vous avez dit. Mais en fait, dans les traités classiques, les passions étaient organisées l'une par rapport à l'autre.
Articulées.
Et donc, je pense que un travail futur, enfin, qui inspiré par ces intérêts, c'est d'essayer de les articuler l'une à l'autre.
De voir comment elles fonctionnent.
Et là, je reviens sur mon idée des mécanismes. Enfin, lorsque on arrive à voir, par exemple, qu'une trahison de confiance peut créer un ressentiment, on peut faire des prédictions sur le comportement des gens. Enfin, parce que toute théorie, disons, en sciences sociales, veut arriver à des possibilités de prédiction de l'action sociale. Enfin.
Alors je reviens pour conclure cette première partie de l'émission, Gloria Origi, sur mon point de départ qui était le constat au fond d'une attention plus grande portée aux passions de la part des chercheurs, quelle que soit leur discipline, parce qu'ils ont bien compris qu'il fallait les prendre en compte pour comprendre ce à quoi on avait affaire, si le modèle de la rationalité ne n'épuisant pas les comportements, loin s'en faut. Mais j'ai l'impression, et c'est ce que je disais, qu'on était passé à une étape, en tout cas pour certains chercheurs, au-delà, qui consistait à valoriser même les passions, à les trouver belles. Alors souvent dans un registre esthétique, on constate dans une littérature d'historien ou de sociologue, et à estimer que la démocratie, par exemple, avait besoin de passions. Et c'est-à-dire que, au fond, sous prétexte que le modèle de la rationalité ne fonctionne pas, il faudrait abandonner une sorte d'idéal d'un espace public qui fonctionnerait dans l'agir communicationnel, comme dirait Habermas, oui. C'est-à-dire d'individus qui... Voilà, on pourrait quand même se dire qu'après tout, la démocratie a beaucoup à perdre si elle décidait d'arrêter complètement ce mode de fonctionnement pour se livrer entièrement aux passions.
Non, je trouve que là, c'est peut-être aller un peu trop loin. Ça veut dire que, justement, prendre en compte les passions ne veut pas dire exclure la rationalité, enfin, et les rapports.
Et la raison.
Et la raison, disons, la raison des rapports humains. Parfois, les passions sont raisonnables parce qu'elles nous permettent, c'est l'accès le plus direct qu'on a aux valeurs et aux normes sociales d'une société. Donc, les passions ressurgissent à des moments dans lesquels les sociétés sont en transition en termes des normes sociales et des valeurs. Et donc, c'est sous l'aspect des valeurs et de la disons de l'évolution des normes sociales qu'il faut considérer les passions comme des traits qui ont une portée disons explicative.
Alors on trouve une entrée aussi dans ce dictionnaire qui est bon sentiment. On sait qu'on ne fait pas de la littérature avec des bons sentiments, mais pour autant, la littérature s'intéresse depuis fort longtemps et continue de s'intéresser dans ce qu'elle a de plus contemporain aux passions. Je pense qu'on aura l'occasion de le voir dans la deuxième partie de l'émission pour laquelle nous rejoindra Maria Pourchet, mais c'est après un extrait de l'album Partition, quatrième album du groupe français Oruni.
La suite dans les idées, Sylvain Brumeau.
tumor on my gallbladder. Knock me off the road. When I started to lose my appetite, I was given a scan. Anemia struck my body too. I had lost.
Passion sociale, c'est le titre du dictionnaire qu'a dirigé Gloria Origi, qui est notre invitée aujourd'hui à la suite dans les idées. Et les impatients, passion, impatient, c'est le titre du roman de Maria Pourchet qui nous rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Un livre qui a paru au mois de janvier chez Gallimard. On aurait pu s'attendre d'ailleurs à une entrée dans ce dictionnaire pour impatience ou pour patience, tant la vitesse semble être l'une des passions les mieux partagées de notre société. C'est ce qu'on se dit aussi en vous lisant vite, parce que je trouve que c'est un livre qui se lit vite aussi, qui est peut-être conçu pour ça.
Alors, j'ai pas pensé à la vitesse de lecture. En tout cas, je voulais que le rythme traduise précisément les passions des personnages. Oui, effectivement, qui est la vitesse. Alors, pour être un peu, là, je reprends votre approche, mais je crois que l'impatience telle que j'essaie de la décrire dans ce roman, qui est la restitution du résultat d'une enquête sociologique d'ailleurs. Ça
oui, parce que vous êtes sociologue de formation, maintenant vous êtes devenu
dans une vie antérieure. L'impatience, c'est plutôt le rythme qui est imposé à ces personnages par la satisfaction de leur passion. C'est le symptôme de la passion. Et cette passion-là, pour reprendre la typologie de la première partie de l'émission, je n'aurais pas pensé d'ailleurs à utiliser ce terme de passion, je crois que c'est la peur de mourir. C'est la peur de finir, puisque l'impatience consiste, pour les personnages que je décris, qui sont des millennials, c'est les jeunes dirigeants de 30 ans, l'impatience, c'est la volonté de placer dans plusieurs vies dans une seule.
Mais une deuxième vie au moins, ouais. Puis en fait on s'aperçoit une troisième.
Une troisième, une quatrième, et d'additionner ces séquences de réussite de vie, les unes derrière les autres.
Avec derrière, Gloria Origi, on n'en a pas parlé, la peur.
La peur, bien sûr. La peur de la mort, d'ailleurs, c'est une passion qu'on aurait pu explorer. Ou la peur de l'ennui,
qui est la même. La peur de finir, la peur de disparaître, là, c'est vraiment ce qui est à l'origine de cette impatience.
D'ailleurs, l'impatience, c'était un trait prévu. Et puis, l'auteur que j'avais envisagé m'a laissé tomber.
Maria Pourchet, comment, comme romancière, vous abordez la question des émotions? Vous disiez à l'instant que, au fond, les passions, elles étaient données à lire, à voir, à travers les actions de vos personnages. Vous n'êtes pas de ces écrivains qui donnent dans la psychologisation du tout des personnages. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est finalement, vous arrivez à parler des passions autrement que dans le commentaire psychologisant à propos de vos personnages. Surtout en le fuyant même.
Alors, pour parler de ce roman-là, parce que c'est assez particulier, ce roman devait être un rapport d'enquête.
D'enquête sociologique.
Oui, voilà. J'ai rencontré plusieurs dizaines de jeunes dirigeants, d'entrepreneurs français, et le but, c'était de comprendre les mécanismes de la réussite chez les trentenaires. Et là, j'ai été précisément confrontée à l'écueil des sciences sociales, c'est-à-dire que si j'avais fait ce rapport-là, ça aurait été très stérilisant, j'aurais dû mettre à la marge justement toutes les émotions, tous les non-dits, parce qu'en fait, quand on fait un entretien, j'ai rencontré près d'une cinquantaine de personnes, et c'est ce que je fais souvent pour mes livres, ce que j'ai souvent fait dans mon activité de sociologue, parce que j'ai pratiqué beaucoup la sociologie pour vivre. On se rend compte que pour expliquer leurs agir, tous les motifs qui viennent dans la conversation relèvent précisément des passions telles que vous venez d'en parler. C'est l'amour, c'est la peur, c'est la libido au sens recherche du plaisir et de la satisfaction d'un désir, c'est la revanche, c'est sociale ou individuelle. Et finalement, ce que la sociologie nous inviterait à observer, c'est-à-dire la réflexivité de l'individu, les stratégies de positionnement, etc., etc., c'est 10%. 10% de ce qu'on me raconte. Alors, le problème de la sociologie, ça aurait été de... Je pense que tous les sociologues s'intéressent à l'émotion, à la passion, etc. Mais c'est le statut qu'on peut donner à cette donnée dans le format sociologique. Ouais, voilà, on peut tant que on n'a pas repéré plusieurs occurrences de cette même émotion, on peut rien en faire. C'est de l'ordre de l'hypothèse.
On peut pas la coder vraiment.
Voilà, de la vue de l'esprit ou du fameux signal émergent, pour reprendre un petit peu le jargon de cette discipline qui est aussi la mienne. Et donc voilà, pour ces travaux-là. Toute la vérité que j'avais à dire sur, pour reparler encore d'une passion du dictionnaire, tout ce que j'avais à dire sur les personnages que j'avais rencontrés appartenait vraiment à la catégorie que la sociologie stérilise et laisse dans l'ombre. Voilà, donc j'ai décidé d'en faire un roman. Et par ailleurs, je pense que la, je sais que je réponds pas directement à votre, question. Et par ailleurs, je pense que la fiction est un outil sociologique. Je sais que c'est très controversé, comme je vais pas dire que c'est la, la fonction même de la littérature, mais je crois vraiment, on parlait de transdisciplinarité tout à l'heure, je crois vraiment que la fiction participe de cette approche transdisciplinaire.
Qui, je crois, est de plus en plus partagée, qu'on a entendu à de nombreuses reprises au micro de cette émission. Gloria Origi, ouais. C'est vrai qu'il faudrait presque élargir à la littérature. D'ailleurs, il y a une auteure, il y a Siri Hustvedt.
Siri Hustvedt a écrit la très misogynie. Donc il y a des sociologues qui deviennent écrivains et des écrivains qui deviennent sociologues. Donc,
moi, c'est un peu le même métier.
L'aller-retour, non, je trouve que c'est très important. Mmh. Et je trouve que c'est un peu la méthode de Siri Hustvedt, pas avec la sociologie, mais avec les sciences cognitives, les neurosciences et la psychanalyse. Elle fait des allers-retours et parfois la littérature, bien sûr. Enfin, si on parle des passions, les manuels des passions, c'est les romans, ce n'est pas les sciences sociales. Enfin, donc la littérature est un apport fondamental à notre compréhension de l'action sociale.
Après, alors vous parliez, vous appuyez sur ce dernier roman, Les Impatients, Maria Pourchet, mais vous avez fait paraître quelques mois auparavant, à l'automne dernier, chez Pauvert, un autre livre qui est dans un autre registre du récit, un livre littéraire aussi, Toutes les femmes sauf une. Là, la place des passions est différente dans ce type d'écriture ?
Alors oui, parce que déjà elle motive le projet, enfin elle motive le livre lui-même. C'est là pour le coup, je suis pas du tout dans une démarche rationnelle, pas du tout, puisque c'est un livre qui vient vraiment de la colère, qui vient du choc, donc l'émotion d'entre les émotions. Et je suis passée par la littérature pour en faire quelque chose. Je reprends par ce livre-là, donc qui qui n'est pas un roman, hein, ça s'inscrit vraiment dans quelque chose de testimonial, mais je me sers, pour le coup, l'émotion aussi devient l'outil pour remonter tout un phénomène social qui est la transmission des scénarios de destruction et des conditionnements au sein d'une lignée de femmes, c'est-à-dire comment la mère transmettre, notamment par le langage, des injonctions à tel et tel comportement qui vont être destructeurs et poursuivants sur le même crime d'une génération à une autre. Voilà. Mais là, j'ai inversé le mouvement.
Mais on voit comment les passions peuvent être des outils de connaissance, disait tout à l'heure Gloria Origi, des outils pour fabriquer ou pour produire des textes littéraires, pour produire des romans. Mais il y a une autre question qui m'intéresse dans votre travail littéraire, Maria Pourchet, par rapport aux émotions, c'est au fond de savoir si vous vous posez la question des émotions que vous, comme auteur, produisez chez des lecteurs dont vous avez peut-être une représentation vague, confuse, parce que, par exemple, votre écriture peut être drôle, elle peut chercher à provoquer le rire, et donc ça c'est une intention, l'intention de provoquer une émotion chez son lecteur. Quelle place on laisse à cette réflexion dans son travail d'écrivain ?
Alors chez moi elle est énorme, elle a même qu'elle a le statut d'obsession. Je n'écris pas une ligne sans penser au lecteur. Pour moi, ma vie de lectrice est plus importante que tout le reste. J'ai tout appris dans les livres, justement le fonctionnement de la société, comprendre la réaction de mes semblables, etc. Dans quelle mesure je dépendais de tels déterminismes sociaux, j'ai compris ça chez Balzac, chez Flaubert, chez Marcel Aimé, chez Giono, et chez Pérec, et plus tard, même plus tard un peu chez Houellebecq. Donc pour moi, la fiction est presque quelque chose de militant, quoi. Il s'agit de dire quelque chose de son temps, de proposer une compréhension, il faut que ça serve à quelque chose. Alors ça paraît très ambitieux, voire arrogant de dire ça, parce que y a de fortes chances que j'échoue, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'y pense en permanence. Ça, c'est un premier truc. Et le deuxième, effectivement, c'est faire sourire. Parce que le premier projet ne passe qu'au gré du second. L'idée que quelqu'un ait le temps aujourd'hui d'ouvrir un livre, quelque part, il faut le créditer de quelque chose qui est... Je sais pas comment l'expliquer, en fait.
Non, mais il y a aussi la recherche d'une certaine efficace de l'écriture de ce point de vue-là. Je relisais, parce que je l'avais lu à l'époque, le très beau portrait que vous a consacré Raphaël Léris dans Le Monde, dans lequel vous disiez que, petite, vous aviez envie d'être Michel Audiard en un seul mot. Et donc, d'ailleurs, vous êtes scénariste aujourd'hui. Et donc, l'idée d'écrire pour produire du rire ou pour produire des larmes, pour produire une émotion, c'est quelque chose qui est plus assuré. Assumé peut-être dans le monde du cinéma d'ailleurs que dans celui de la littérature, mais c'est quelque chose, c'est une expérience qui vous intéresse.
Alors pour produire, je comprends ce qui me gêne avec cette question depuis le début, parce que je pense pas que le rire est une émotion. Pour moi, le rire est quelque chose à presque les larmes, d'accord. Ouais, c'est, d'ailleurs, je suis pas très à l'aise avec ça. Peut-être dans le livre, qui n'est pas de la fiction d'ailleurs, que vous venez de citer,
Toutes les femmes sauf une.
J'ai dû passer par l'autobiographie et le témoignage pour arriver à faire ça. Mais pour moi, le rire est quelque chose qui fait appel au cerveau gauche, quoi. C'est plus de l'ordre de la mentalisation. Si l'on rit, c'est qu'on a compris ou un second degré, ou une ironie. C'est le résultat d'une réflexivité sur soi. Donc moi, je pense que le fait de faire rire, c'est le subterfuge pour me faire échapper à l'émotion et à la responsabilité de créer une émotion chez mon lecteur. Enfin, là, je réfléchis en parlant, mais c'est votre question qui est en train d'ouvrir un gouffre. C'est, est-ce que vraiment je veux créer une émotion et est-ce que je l'assumerai? Je sais pas. Je crois que je suis obsédée par le fait de faire rire, enfin de faire sourire, y compris sur soi et sur moi-même. Mais je crois que c'est une protection.
Voilà. Gloria Origi.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Marie Pochet. En fait, c'est pour ça qu'on a exclu. On avait raisonné sur le rire ou en général l'ironie comme passion, et en fait, on l'a exclu en pensant que c'était plutôt de l'ordre de la réflexivité. Enfin, dans votre livre, on éprouve des passions. Enfin, vous arrivez à j'ai pu le lire avant de venir ici, et donc on ressent cette impatience, on ressent beaucoup de passions qui sont dans les personnages. Et de l'autre côté, le rire, c'est un peu de l'ironie qu'on peut faire sur soi-même, enfin. Donc c'est lorsqu'on se rend compte qu'on partage dans nos vies les émotions des personnages.
Oui, donc c'est une démarche intellectuelle presque.
Oui. Mmh.
Donc ça ne renvoie pas du tout pour vous à...
Je crois pas, en tout cas pas ce rire-là.
Qui est plus un sourire, disiez-vous, que voilà. Qu'un oui, rire.
Et puis, oui, et puis qui relève de la connivence. Et la connivence, c'est aussi une démarche intellectuelle, nous.
Pour ça, il faut prendre soin du lecteur, ce que vous faites admirablement bien, Maria Pourchet. Je rappelle le titre de ce roman qui est apparu au mois de janvier, Les Impatients, aux éditions Gallimard, et puis le titre du récit qui avait paru à l'automne, Toutes les femmes sauf une, chez Pauvert, et puis le dictionnaire qu'a dirigé Gloria Origi, dont nous avons parlé tout au long de cette émission, Passion sociale. Il paraît aux presses universitaires de France. Vous retrouvez les références bibliographiques de ces trois ouvrages sur la page de la suite dans les idées sur le site de France Culture, une page où vous pouvez réécouter l'émission autant de fois qu'il vous plaira, une page également sur laquelle vous pouvez vous abonner, et je vous y encourage, au podcast. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, attaché de production Chouchane Djergaillan, à la technique Cédric Châtelus, à la réalisation Anne Pérez Franchini. Et dans quelques instants, c'est Christine Bernard que vous retrouvez sur l'antenne de France Culture.